Enjeu de santé, le magazine prévention santé de SILAB.
En partenariat avec l'Agence régionale de la santé et la région Bretagne.
Le 23 mars dernier se déroulait sur le campus de Villejean une journée consacrée à la vie affective et sexuelle. Organisée par le service de santé de la fac, il réunissait de nombreuses associations qui s'intéressent à la question de la sexualité sous toutes ses coutures. Une journée intitulée All You Need Is Love. Un angle orienté vers le plaisir qui convient bien aux associations présentes, notamment au tout nouveau groupe S'Exclame.
À la base, je pense que cet événement, il s'appelait « Je dis oui au plaisir », en fait. Et du coup, nous, quand on nous en a parlé, c'était ça. Et on s'est dit « Waouh, super que l'institution et la fac prennent ce biais-là ». Enfin, c'était surprenant, en fait, même. Et de se dire que du coup, nous, on était en train de monter cet assaut et qu'en parallèle, il y ait cette volonté de festival répétée. En plus, l'idée, c'est quand même que ça s'installe sur les deux campus, Rennes 1 et Rennes 2. On a trouvé ça bien de se dire que on pouvait aussi travailler ensemble à côté et dans des lieux différents et tout ça.
On a été contacté par le pôle santé qui se disait pour la journée vie affective et sexuelle, ce serait plutôt intéressant de faire venir comme une vision. Ça semble être une partie de notre rôle, effectivement. On a un rôle de sensibilisation aux problématiques LGBT qui sont évidemment liées à la vie affective et à la vie sexuelle. Après, on a un rôle de sensibilisation, question de protection, MST, tout ça. Et je trouve, je vois d'un très bon œil le fait que la fac essaye d'impliquer des associations étudiantes, c'est une bonne chose.
Le moment se veut ludique pour attirer les jeunes étudiants, et le pari est plutôt réussi, comme avec cette drôle de boîte dans laquelle il faut glisser ses mains.
Alors en fait, c'est une petite caisse décorée pour attirer les gens. Mm-hmm. Eux introduisent leurs mains par ici, et doivent mettre en place un préservatif sur un sexe en plastique, en fait. Mm-hmm. Sur un pénis en plastique, donc à l'aveugle.
Et vous êtes là pour leur donner des instructions, des conseils aussi, comment faire?
Voilà, donc moi je suis de l'autre côté, je regarde dans la boîte ce qu'ils sont en train de faire. Mm-hmm. Et oui, je suis là pour leur dire des erreurs ou potentiellement comment il faut s'y prendre.
Et ils font régulièrement des erreurs?
Assez régulièrement, en particulier certains ne pincent pas le réservoir, par exemple, mmh. ou mettent le préservatif à l'envers, le retournent pour le remettre, alors que il faut le jeter pour en reprendre un nouveau.
D'accord.
Voilà. Mais en général, ça les fait beaucoup rire, c'est assez ludique comme système.
Alors, j'enlève quand même le... Ça, j'ai le droit de l'enlever avant. Hop, et du coup, là, je la...
Qu'est-ce qu'on fait d'abord?
Il faut repousser comme ça. Là, je fais hop, dans l'autre sens.
Parce que là, autrement, on la déchire carrément par le milieu.
Oui.
Là. Il faut qu'elle soit bien repoussée.
Ah oui,
au fond.
Mais on fait les petits pics, ils servent à ça normalement.
Alors, dans l'autre sens.
Ah, d'accord, ok, ouais.
Hop.
Très bien.
Là, il faut choper le sens, Thomas. Ah merde, mon bug s'est pris dans le truc. Ah mon dieu! Oh non. Ah, c'est bon. Hop. Voilà.
Très bien.
Hey! Ouais, j'ai l'habitude. Et après, faut l'enlever, c'est ça? Alors, ça, c'est un truc. Oui. Mais faut choper. Ouais, mais là ça glisse pas. J'arrive pas à choper. Ah si, c'est bon. Ah. Hop. Le nœud. Est-ce que je vais. Hein? Ouais, normalement. Hop. Attention. Tadam. C'est bon normalement. Voilà, j'ai les mains toutes miam miam miam.
Et félicitations.
Bah, merci. Des années d'entraînement.
Regardez la date de péremption. Bien repousser le préservatif dans sa pochette pour ne pas le déchirer en ouvrant la pochette, justement. Bien pincer le réservoir avant d'introduire le préservatif sur la verge. Et faire attention quand on le retire, de bien le retirer voilà, en l'accompagnant en fait. On fait un nœud et on le met à la poubelle.
Ça paraît simple, mais c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on risque si on rate une de ces étapes?
Tout simplement la contamination par les maladies sexuellement transmissibles, enfin les IST, infections sexuellement transmissibles, puisque le sperme peut être en contact des muqueuses de la femme. C'est-à-dire que là, c'est le service de médecine, le service universitaire de médecine préventive. Mmh. Là, c'est le planning familial.
D'accord.
Là-bas, c'est encore nous. Il y a l'association LGBT également, l'association Sexclam. Dans les partenaires, j'ai oublié le CRIJ aussi, hein, avec le cabinet des curiosités.
D'accord. Cabinet des curiosités ?
Cabinet des curiosités.
Ah oui, c'est possible.
Alors moi je suis Roxane Gervais, je suis secrétaire au Centre Gay, Lesbien, Bi et Trans de Rennes. Mmh. Voilà, et donc je suis venu ici pour co-animer cet espace qui est donc un cabinet de curiosité qui est mis en place par le CRIJ et le CIMS. C'est un espace fermé où on a plusieurs panneaux qui vont aborder différents thèmes autour de la sexualité. Donc on a des panneaux sur la contraception, les préservatifs internes, externes. On a aussi un panneau sur l'homophobie et la transphobie, avec voilà, la carte des droits des personnes homosexuelles dans le monde, par exemple, ou les insultes, les discriminations qui ont pu être subies des personnes homosexuelles ou bisexuelles célèbres. Voilà, histoire de montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus commun que ce qu'on pense, que ce soit l'homosexualité, la transidentité ou l'homophobie et la transphobie, et à quel point c'est quelque chose d'inhérent à la société, en fait, et de systémique. On a aussi un panneau sur le droit à l'avortement et à la contraception, donc tout ce qui était pilule. On a en gros voilà, toute une chronologie de la contraception et de l'avortement en France, avec donc l'accès à la pilule, l'accès au stérilet, donc qui est toute une lutte féministe aussi de réappropriation du corps et de la fécondité. Mm-hmm. Un enfant quand je veux, si je veux. Voilà. Et donc aussi par rapport à l'avortement et toutes les luttes qui ont eu lieu par rapport à ça, qu'on connaît, mais voilà.
C'est toujours utile de le rappeler.
C'est toujours utile de le rappeler, surtout que c'est toujours en question. Il n'y a qu'à voir les débats récents à ce sujet-là et les personnes qui... voilà, Fillon qui avait dit que...
Personnel, il était contre, mais voilà, l'IVG, mais qu'il ne la remettrait pas en cause.
Voilà, mmh. Donc ce qui pose quand même question, un candidat à la présidentielle qui dit qu'il est contre l'IVG. Mmh. Bon, en même temps, il reste sur sa ligne habituelle, hein. François Fillon, à ce niveau-là, il a toujours été de ce bord-là. On a aussi donc deux panneaux sur l'anatomie en soi, et donc tout ce qui est à quoi ressemble un vagin, à quoi ressemble une vulve, c'est quoi le clitoris. On en profite aussi pour aborder la contraception testiculaire, parce qu'il n'y a pas que la pilule qui existe, il y a aussi des moyens de contraceptifs qui peuvent être à la charge des autres personnes concernées quand même, parce qu'un enfant, il faut être deux pour le faire. Dommage que ça porte toujours sur la même personne. Voilà.
Tu parlais d'éventuelles évolutions, enfin qu'il y avait toujours des problématiques aujourd'hui. Comment t'analyserais toi? Il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a encore des choses qui n'avancent pas. C'est lesquels d'abord? Où est-ce qu'il y a encore des résistances?
Alors, ça dépend par rapport à quoi
Bah justement, sur quel sujet? Sur peut-être plus la transphobie que l'homophobie actuellement, peut-être
Alors, l'homophobie, elle est toujours malheureusement très présente. Elle a été même bien relancée par les débats sur l'ouverture du mariage, avec la Manif pour tous qui avait un temps de parole quand même assez impressionnant. On a recensé quand même une hausse assez flagrante des agressions homophobes en 2013 principalement. Ça se calme un peu, mais c'est pas encore ça. La transphobie en revanche, elle est toujours extrêmement présente, voire maintenant que l'ouverture du mariage s'est fait et qu'il commence à y avoir les débats sur le changement d'état civil, là il y a eu la nouvelle loi qui est passée, les personnes trans commencent à être mises sur le devant de la scène, ce qui est bien parce que ça veut dire voilà, on existe et c'est intéressant d'en parler. En revanche, du coup, y a aussi un début d'augmentation des agressions à ce niveau-là, qui vise principalement les femmes trans, mais pas que. Mmh. Voilà. D'accord. Et puis il n'y a pas que les agressions, il y a toujours cette question du changement d'état civil qu'on demande depuis plus de 20 ans à ce qu'il soit libre, gratuit et en mairie. Et la France qui a adopté une loi uniquement pour ne pas se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle était partie pour avoir 3 condamnations étant donné qu'il y avait des exigences de stérilisation. Donc on est quand même sur une question d'eugénisme, c'est assez grave, qui était imposée pour le changement d'état civil. Et donc pour éviter cette condamnation-là, la France a fait passer une loi, sauf que la loi nous fait toujours passer devant le tribunal de grande instance, donc c'est une procédure payante, ce qui fait qu'il y a toujours une inégalité d'accès devant la loi à ce niveau-là, entre les personnes trans les plus précaires, et on est très souvent précaires dans ce cas-là, et les personnes qui le sont moins, et c'est surtout toujours l'arbitraire de la justice, donc à l'apparence, à la conformation au cliché de genre aussi. Une femme trans qui porte un pantalon aura beaucoup plus de mal à obtenir son changement d'état civil qu'une femme trans qui arrive en jupe au tribunal. C'est complètement absurde, mais c'est le cas. Voilà. On a quand même eu des cas assez aberrants. Un homme trans à qui la juge demande s'il est capable de faire des pompes pour obtenir un changement d'état civil. Je vois pas trop le rapport. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là, nouveau bloqué. Et du fait de cette loi, qui parmi celles qui ont été adoptées est juste la pire, étant donné qu'il y a un grand mouvement mondial où il y a de plus en plus de pays qui font du changement de l'état civil libre et gratuit, et nous on a décidé d'adopter une loi rétrograde. Mmh. On a un problème.
Très bien. Au centre GLBT de Rennes, on peut venir vous voir. Tu peux jouer à peu près les événements qui existent, mais notamment ceux qui sont ouverts aux personnes qui ne sont pas forcément habituées à venir. Il y a complètement possibilité de venir vous rencontrer quand on est en questionnement.
Tout à fait. Il y a notre permanence associative qui est ouverte à tout le monde, tous les mercredis de 19h à 22h au centre, donc 3 rue de Lorraine. On a également des événements conviviaux qu'on organise régulièrement qui sont également ouverts à tous. En fait, les seuls événements qui soient réservés sont les groupes non mixtes, les groupes de parole pour les personnes trans, pour les personnes bi, le groupe femmes qui est en suspens actuellement, mais qui va probablement être relancé. Voilà. La plupart de nos activités sont vraiment ouvertes à tout le monde, et il faut savoir aussi que les groupes non mixtes sont ouverts aux personnes qui se questionnent sur leur orientation, sur leur identité de genre. Voilà.
Une vision, c'est l'assaut de lutte LGBT de Rennes 2, c'est-à-dire de lutte pour les droits des personnes lesbiennes, transgenres, gays, bi, asexuelles et autres. C'est une asso qui existe depuis la fin des années 90, qui a changé de forme plusieurs fois. Les formes de militantisme ont tendance à changer en fonction des gens qui sont à l'intérieur. Moi, si j'y suis entré, alors c'est... À la base, c'était à cause d'un problème avec un professeur qui avait tenu des propos... assez grave à l'égard des personnes transgenres, et du coup j'ai voulu savoir s'il y avait une asso qui pouvait réagir pour ça. Et comme j'ai rencontré les gens là-bas et que ça s'est bien passé, et ben j'ai adhéré à la suite de ça. Et on est très ouvert à l'idée que d'autres gens viennent et proposent des projets, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de projet défini. Enfin, on est ouvert à tout projet, et l'idée c'est de créer un réseau qui permette ça. On avait prévu une fiche avec des questions et des propositions de débat, mais on est sur un lieu de passage et les gens sont à la fois pressés et pas vraiment dans une optique de grande discussion, puisque effectivement, bah, ici on est à la vue de tous, c'est des sujets qui peuvent être sensibles. Et... Bon, après, c'est aussi un lieu qui est très bruyant, on va pas se le cacher, pour le débat c'est un peu compliqué. Mais après, pour faire découvrir, c'est intéressant. Il y a plein de gens qui sont repartis avec des prospectus en ayant appris quelques mots, et c'est déjà beaucoup si on a réussi à faire ça. La plupart du temps, ça a été des personnes qui nous ont demandé de parler de l'association. On a une personne qui est venue nous parler de polyamour, pour des raisons personnelles, mais globalement, c'était des personnes qui ont été attirées par notre stand plein de couleurs et qui ont voulu en savoir plus sur l'association. Donc c'était vraiment de la curiosité. Il y a une personne qui est venue nous proposer un partenariat également avec l'association Stop Harcèlement de Rue, qui est pas dans la fac, mais qui est en recherche de partenariat avec d'autres associations.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise.
je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot.
Le partenariat entre associations fonctionne bien ici, au sein de cette journée All You Need Is Love, où, je vous le rappelle, on peut trouver le service universitaire de médecine préventive, le planning familial, le CRIJ, le centre GLBT, l'association Sexclam ou encore Commune Vision. Avec Commune Vision, on a voulu aborder les questions de discrimination que subissent les personnes transgenres sur le campus. Des comportements auxquels notre intervenant a lui-même assisté.
Prof en question, que je vais évidemment pas citer, mais à parler de ça comme d'une mode, ce qui était un peu compliqué à admettre, ça posait problème. On a régulièrement des professeurs qui s'aventurent sur ces sujets-là sans avoir le bagage lexical, genre ils utilisent des mauvais termes et tout, et ça c'est pas quelque chose dont on peut leur tenir rigueur. Après on est là pour venir en discuter avec eux s'il faut. Mais il y en a qui évidemment donnent leur avis sur le sujet, qui est parfois un peu vraiment problématique et qui peut être dangereux pour les personnes, pour les élèves qui sont là, parce qu'ils disent ça en ayant l'impression de parler d'une altérité un peu obscure, mais ils savent pas combien de personnes peuvent être concernées sur place. Et on a des personnes dans l'association qui parfois ressortent choquées de leur cours parce qu'ils ont, enfin, ils ont entendu des choses qui étaient violentes pour eux, quoi. Qui niaient leur situation.
Ouais, qui n'a pas lancé l'idée ?
Moi, j'ai pas lancé l'idée. L'idée de ce jeu, il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs thèmes. C'est de leur faire parler justement de sexualité de façon très très large.
Ouais, c'est vraiment d'amorcer une expression autour de la sexualité sans forcément axer sur un point ou un autre. Le principe, c'est qu'on a trois types de questions, plaisir, aventure, le savez-vous, sous forme de couleurs, donc vert, bleu et orange. On a un petit dé qu'on tire à six faces, donc il va y avoir deux cases bleues, deux cases vertes et deux cases oranges. Et en fonction de là où on tombe, on tire une carte et sur cette carte-là, il y a une petite question. Des questions qui sont un peu, assez banales, ordinaires, mais qu'on n'aurait pas l'idée, notamment sur les animaux, sur peut-être la culture hindoue, etc., autour de la santé sexuelle, la sexualité, la vie relationnelle, etc.
Alors, le Kama Sutra ne fait pas état de la sodomie, considérée comme immorale par les anciens hindous.
Vrai ou faux?
Je me rappelle pas,
je
me rappelle plus si on
le fait. Est-ce qu'il y a des rapports gays dans le Kama Sutra?
J'ai jamais vu deux hommes avec,
mais non, mais est-ce qu'il y en a?
Oui. Bon. Je crois pas.
Mais s'il y en a, ça oui, mais s'il y en a, ça veut dire que c'est
je suis tombée dessus.
C'est du coloriage.
Il y a la version.
Oui, je confirme, il n'a aucun.
Et oui, avec des fiches détachables et tout pour colorier. Bon, alors du coup.
Moi, je vais partir sur.
On l'a dit faux. Allez, si on se met, on se met.
Non, c'est la bonne réponse.
Ouais, c'est bon.
Bravo. Oui.
Tant qu'on les voit souriants et que les personnes apprécient le temps d'échange qu'ils ont ensemble, le but c'est qu'on lève au moins tout ce qui va être l'ordre des tabous sexuels et puis que les personnes puissent partager ensemble un bon moment. Moi je suis d'une structure associative de prévention et de promotion santé auprès des jeunes, Liberté Couleur, qui intervenons avec des partenaires, donc tous les partenaires que j'imagine tu as pu rencontrer sur l'espace. Nous, notre objectif, c'est plus d'apporter une plus-value un peu aux échanges sur la sexualité, puisqu'on intervient depuis des années et des années, du collège jusqu'au lycée, voire dans d'autres lieux où il y a des jeunes, sur ces questions de sexualité. Donc là, on vient apporter plus un apport technique sur les modes d'animation et d'échange auprès des jeunes.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous prendre un peu de temps maintenant ?
Ouais, carrément. Ah bah ouais, c'est une bonne occasion.
C'est le bon moment de faire
la pub.
Non,
c'est vrai, sans rigoler.
Allez, Margot, vas-y.
Après, non, on va aussi parler du projet du Sims.
Sexclam, c'est une toute jeune association qu'on vient de créer, donc toutes les deux, Leslie et Margot, qui a
à peine un mois. Et en fait, on l'a créé parce qu'on a un peu fait le constat qu'on parlait pas beaucoup de sexualité aujourd'hui, peu, et en général mal dans les médias dominants, et à l'école, et même un peu plus généralement dans nos groupes d'amis et dans nos familles. Et qu'en même temps, il y avait une vraie envie d'ouvrir le dialogue et de susciter un peu la réflexion. On a créé cette association pour parler sexualité au sens assez large du terme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de se restreindre à une définition de la sexualité. Donc on a aussi envie d'aborder les questions de plaisir, de consentement, de questions de genre, de rapport au corps aussi, comment on se réapproprie notre corps. Du coup, l'association, elle est née à l'origine d'une envie de monter un temps fort, une sorte de festival des sexualités, et de réunir un peu justement toutes les assos comme celles qui sont présentes aujourd'hui ici à Rennes et aux alentours qui traitent ces questions-là, donc que ce soit le planning familial ou pourquoi pas Liberté Couleur, le CLGBT, là j'en cite en vrac, mais on n'a pas encore le contact avec toutes, mais voilà, c'était cette idée de proposer un peu un temps fort qui permettrait de réunir ces énergies et d'être un peu dans quelque chose d'intense et sur de la réflexion autour de ces questions de sexualité. Et là, en ce moment, on est surtout en train de constituer une équipe parce qu'on n'a pas envie de faire ça à deux. On trouve que plus on sera nombreux, plus ce sera riche. Et ce sera aussi avec l'équipe qu'on décidera un peu de nos actions. Peut-être pas un festival tout de suite, selon les envies, peut-être des événements plus ponctuels.
On a eu une entrée sur l'appropriation du corps, qui est une thématique qui est assez forte et qu'on entend un peu aujourd'hui dans les milieux alternatifs. On parlait aussi de consentement. Margot, elle était sensible aussi à cette question-là, donc elle est en train d'essayer de réfléchir à voilà, une manière de travailler un peu cette question-là. On a aussi commencé à se questionner sur les travailleurs et les travailleuses du sexe, sur la relation aussi entre sexualité et handicap. Donc on a vraiment envie que ce festival et cet asso puissent prendre des axes différents et qu'en fonction des gens qui seront là et qui feront force aussi, on puisse voilà, aller chercher des thématiques et des gens qui puissent questionner ces enjeux-là aujourd'hui. Je pense au fait qu'on a énormément de tabous. Enfin, moi personnellement, je travaille sur le poil. Donc j'ai pu rencontrer pas mal de gens, discuter de pas mal de choses par rapport à ça. Des trucs qui nous concernent au quotidien et qu'on n'assume pas, dont on parle pas, alors que tout le monde est concerné. Mais je pense aussi par exemple à de l'autogynécologie ou à des choses un peu plus voilà, complètement alternatives aussi qu'on peut aborder. Enfin, l'idée est aussi ça, de faire lien entre des choses peut-être institutionnelles comme des grandes assos connues qui existent depuis longtemps ou des choses voilà, plus alternatives dans des petits coins un peu à côté de Rennes et tout ça.
Bah déjà, si on parle mal de sexe, comment les jeunes qui s'ouvrent à la sexualité, ils peuvent le faire avec confiance et avec sérénité, en fait, juste déjà à cette base-là. Et puis après, sur des conséquences très directes, parce que là, c'est un peu dur d'être exhaustif sur la question, mais je pense que déjà, il y a mal comprendre sa sexualité et son corps, surtout quand on est une femme, ça pose un problème aussi d'inégalité entre les sexes. Et on est sur des questions un peu de société patriarcale. Voilà, là, on est dans du jargon, mais ça entraîne aussi forcément ça. Typiquement sur les questions de consentement, on constate qu'il y a beaucoup plus de problèmes d'agressions sexuelles et de viols par des hommes sur des femmes, qui sont des pourcentages vraiment très élevés, vraiment très représentatifs. Moi par exemple, dans mon expérience personnelle, moi le constat que j'ai fait qui m'a donné envie de créer cet asso, c'est que moi un jour j'ai une amie qui m'a raconté sa première expérience sexuelle, et en fait c'était un viol, et elle le comprenait pas, elle le conscientisait pas parce que je pense que là je parle en tant que femme, mais du coup c'est un problème qui est général hein, aux deux sexes. On a un peu intégré que notre corps il était à disposition des hommes, et du coup notre plaisir à nous il est souvent secondaire. Et j'ai fait ce constat en continuant à discuter un peu avec des gens autour de moi, juste avec mes amis en fait, sans aller chercher très loin, du nombre d'amis qui se sont fait agresser ou violer. Et surtout du nombre d'amis qui s'en rendent pas compte en fait et qui trouvent ça presque normal. Voilà, c'est un truc pas cool qui nous arrive. Chacun y apporte ce qu'il a envie d'y apporter et d'y faire en fait. Enfin, c'est tout à fait ouvert. Nous, à partir du moment où la personne elle correspond aux valeurs de l'asso qui sont antisexistes, voilà, qui sont dans le respect de chacun, d'autrui. Nous, on est... À partir de ce moment-là, on accepte tout le monde. Et justement, chacun vient aussi avec son expérience, avec ses envies, pour créer au sein de l'asso. On a vraiment envie... Enfin, en plus, comme on aborde un sujet un peu compliqué, il faut vraiment qu'on... On a vraiment cette volonté d'être le plus ouvert et le plus accueillant et le plus bienveillant envers les gens que ça intéresse et qui voudraient s'investir. Donc ça peut être de l'événement ponctuel comme de l'organisation sur le long terme. On a un Facebook pour l'instant qui s'appelle Sexclame. Du coup, c'est comme le verbe s'exclamer, mais il n'y a pas de apostrophe, donc S-E-X-C-L-A-M-E. Donc là, c'est le plus simple pour nous contacter. On a une adresse mail aussi, sexclame@zaclis.net, mais vous pourrez la trouver sur Facebook. Et on aimerait bien avoir un site internet bientôt pour mettre en ligne nos docs et tout, mais ça fait partie des choses à faire avec nos prochains adhérents bénévoles.
Ouais, le plaisir, c'est un des trucs dont on a vraiment envie de parler. Et d'ailleurs, on est peut-être en train de commencer à se projeter dans une soirée sur l'amour, comment on peut s'aimer seul, à plusieurs, le désamour, le non-amour. Et peut-être aussi de prendre, plutôt que de prendre les gros thèmes qu'on a aussi, consentement, qui peuvent être des choses très lourdes, le harcèlement, enfin voilà, on entend en ce moment beaucoup de choses plutôt négatives. Et du coup, essayer de le prendre aussi à l'inverse et de se dire qu'on peut aussi faire ça sur le plan de l'amusement et du plaisir et tout ça. Voilà, on commence aussi à se poser ces questions de par quel biais est-ce qu'on prend les choses et par quoi on commence.
Et c'est assez convivial, donc ils restent, ils peuvent poser leurs questions, même en riant parfois, mais ils les posent quand même.
En fait, finalement, eux, ils ont pas, enfin, ça va pas de tabou vis-à-vis de ça, mais en fait, ils sont pas si gênés de parler de ces questions-là.
Quand ça se passe comme ça, non. Très bien. Donc l'année prochaine, la question, ça va être de les amener jusque-là. Parce qu'une fois qu'ils y sont, en fait, c'est bon, mais c'est les amener.
De ce que j'entendais un peu tout à l'heure, il y avait l'idée de faire ça plutôt le soir, je pense, du coup d'essayer peut-être d'ajouter quelque chose d'un peu plus festif et pas que préventif. Enfin, je pense que ça se veut pas que préventif, au contraire, il y a plusieurs ateliers là qui sont rigolos, qui essayent d'interroger sur des pratiques, sur plein de choses. Donc je crois qu'il y avait un peu cette idée-là. Moi, j'évoquais aussi peut-être que l'idée que ce genre d'outils de prévention où on peut aller regarder comme le cabinet des curiosités, il pourrait peut-être s'installer aussi dans les espaces des infirmières pendant une semaine, en fait, et pouvoir aussi être vu par plus de monde pendant plus longtemps, voire même pouvoir y revenir, et peut-être d'avoir l'intervention d'un animateur ou une animatrice une heure ou deux heures par jour, enfin voilà.
Le service de santé est en cours d'élaboration puisqu'il y a une recherche qui a été faite notamment avec une étudiante de psychocribino sur la sexualité masculine. Donc toutes les questions qui peuvent être posées en termes de besoins ou en tout cas de prise de risque pour les garçons sur les questionnements autour de la sexualité, qui a offert aussi une ouverture sur quelles ressources ils souhaiteraient et donc la possibilité de pouvoir offrir un espace de dialogue pour les garçons aussi sur ces questions-là. Donc à la fois en termes de santé, mais aussi en vie relationnelle, en vie affective et éventuellement sur des problématiques plus d'ordre violence conjugale. Donc ça, c'est l'objectif du CIMS, c'est pouvoir vraiment mettre en place un service d'écoute collectif pour les garçons.
All You Need Is Love, c'est terminé. Retrouvez toutes les informations et tous les intervenants de ce reportage sur la page de l'émission sur le site de SILAB. À bientôt pour de nouvelles aventures sonores immersives.